Raymond Poirier au micro, bienvenue à cette édition de La vie en BD. Toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver pour jaser 9e art, pour jaser bande dessinée. Et cette semaine, il y a un cadre événementiel, il y a un cadre temporel qui s'installe dans les propositions qu'on va vous faire à l'émission, à tout le moins en ce qui a trait aux entrevues qu'on va y proposer. Alors, notamment, on aura l'occasion de jaser avec Michel Giguère en route vers la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD. Et pour les habitués, ben vous savez que depuis déjà une dizaine d'années, en fait, Michel Giguère est de passage de façon mensuelle pour mettre la table autour de ces rendez-vous. Et cette semaine, ben, on va aller peut-être un peu à côté de la bande dessinée comme telle, puisque pour sa prochaine rencontre, il s'intéresse à 1984, donc le roman de George Orwell. Et le roman, on va en reparler, mais dont il est devenu libre de droit désormais. Donc, la période de droit d'auteur s'est terminée. Et évidemment, ben, avec cette, entre guillemets, gratuité qui s'installe, eh ben, il y a une pléthore d'adaptations BD qui sont prévues. Il y en a 5, je crois. Alors, on va parler un peu de 1984 avec lui et placer également ces 5 adaptations en route vers les rendez-vous de la semaine prochaine. Alors, ça, c'est le premier élément à axe temporel. Et le second, eh bien, c'est un projet personnel que j'ai le plaisir de porter depuis déjà un certain temps et que j'ai fortement, mais fortement envie de vous partager aujourd'hui. Il s'agit d'une application de réalité virtuelle qu'on a réalisée sous l'égide de Parenthèse 9, alors dans lequel on a mis des auteurs de bandes dessinées, des historiens, un musicien, une équipe de conception technologique. Et tout ça dans l'optique justement de partir de l'histoire d'un quartier, la ville de Québec, d'un quartier populaire, le quartier Limoilou, et de bâtir, bien, dans le fond, une application de réalité virtuelle qui nous entraîne au fil de 500 ans d'histoire, donc de l'arrivée de Jacques Cartier en ces lieux jusqu'à l'histoire actuelle de ce secteur-là. Et c'est une évolution, en fait, qui est similaire à celle d'autres quartiers populaires par ailleurs. Donc, quand on parlera de l'histoire de cet endroit-là, ben nécessairement, il y a des ponts qui vont peut-être se faire avec l'expérience que vous avez de vos quartiers, de vos villages, où que ce soit que vous nous écoutiez. Et ben, si vous êtes à Québec, ben, à court terme, c'est possible d'aller essayer gratuitement cette application de réalité virtuelle. Il y aura également des déplacements et d'autres dates et d'autres lieux qui s'ajouteront au fil des mois et des semaines, alors qui viendront bonifier un peu l'axe géographique peut-être limité pour en faire l'expérience. Mais j'avais envie de vous partager ça et de vous partager les défis qu'ont représentés, donc sa mise en place, sa mise en œuvre, son développement. Alors, on va en parler avec divers membres de l'équipe de réalisation. Ça va être en deuxième partie d'émission. Alors voilà, pour cette semaine, à la vie en BD. Alors, on plonge maintenant dans les rendez-vous de la bande dessinée qui se poursuivent toujours du côté de la Maison de la littérature et toujours également en web diffusion, notamment par le biais des médias sociaux de Facebook. Et ben, en 2021, il y a quelques classiques de la littérature qui sont entrés dans le domaine public, qui sont devenus libres de droit. Et parmi eux, ben, il y a l'une des œuvres les plus importantes du récit d'anticipation, 1984, de George Orwell. Son changement de statut a débouché sur un certain nombre d'adaptations en bande dessinée parues dans l'espace d'un an. Il y en a eu beaucoup. Et ben, le concepteur et animateur des rendez-vous de la BD a vu là une excellente occasion de monter une diapo-conférence bien particulière, une conférence qui nous sera présentée mercredi prochain, le 6 octobre. Donc, je le rappelle, à la Maison de la littérature. Michel Giguère, salut!
Salut Raymond, puis je réitère, c'est un plaisir d'être de retour à ton émission encore cette saison.
Plaisir partagé, vraiment. Et parlant de retour, les rendez-vous de la BD, enfin, on poursuit un peu sur la vague, donc avec un volet présentiel et un volet virtuel pour la saison d'automne 2021.
Exact, la première soirée de la saison s'est tenue en septembre dernier. Et puis j'étais ravi de retrouver une assistance devant moi plutôt que seulement une caméra, puis le technicien Daniel Deslauriers. Daniel, qui, cette saison, relève le défi d'éclairer ma présentation, de l'enregistrer, de la filmer et de la diffuser en ligne, en direct, tout ça en même temps.
Oui, parce que oui, en fait, on le rappelle, la webdiffusion des rendez-vous de la BD se poursuit, donc on peut les visionner sur la page Facebook de la Maison de la littérature, en direct ou en rattrapage. Évidemment, un rattrapage qui est toujours possible, d'ailleurs, dans le cadre des présentations de la dernière année. J'encourage fortement les gens à plonger dans ces rencontres-là, si ce n'est déjà fait, d'ailleurs.
Il y a plusieurs thèmes, ils peuvent choisir sur les thèmes qui les intéressent le plus. Ça remonte jusqu'à septembre 2020. Et puis, on se croise les doigts pour que les prochaines rencontres puissent être encore visibles à la fois en salle et en ligne, malgré la quatrième vague, puis on ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez.
Et donc, si on revient maintenant, Michel Giguère, vers le 6 octobre, donc la présentation, la conférence que tu nous proposes s'intitule « 4 fois 1984 ».
Oui, sauf que c'est trompeur parce que ça va porter non pas sur 4 adaptations en bande dessinée, comme le laisse supposer le titre, mais bien sur 5. C'est un peu comme les 3 mousquetaires qui étaient 4. La raison en est que lorsqu'on a élaboré puis annoncé la programmation d'automne, il y a seulement, je dis bien, 4 adaptations du célèbre roman qui étaient parues. Et depuis, bien, il y en a une 5e qui a été publiée. Ça fait que ça va plutôt être 5 fois 1984 et puis on va s'amuser à basculer d'une version à l'autre. Mais quand je dis s'amuser, c'est une façon de parler, puisque 1984, comme on le sait, c'est quand même un des romans les plus oppressants qui a jamais été écrit.
Et justement, je pense, avant de plonger dans les adaptations, il faut remettre en place un peu autour du roman et de son histoire. Le Britannique George Orwell l'avait publié en 1948-1949.
En fait, c'est paru en 1949, mais lui, il l'avait écrit l'année d'avant. Et pour situer le futur sordide qu'il imagine, il inverse les 2 derniers chiffres et ça nous mène en 1984. Le succès est immédiat. Il s'en vend plus de 400 000 dans l'année qui suit sa sortie, sauf que la tuberculose emporte l'écrivain aussitôt qu'en 1950. C'est cruel. Il n'avait même pas 47 ans.
Et ça explique d'ailleurs pourquoi il a laissé derrière lui si peu de romans au final.
Oui, mais pas seulement, parce que par ailleurs, il faut dire qu'Orwell a recours au roman comme on se sert d'un outil. De son vrai nom, Eric Blair, il était avant tout journaliste et essayiste. En s'engageant dans la guerre d'Espagne, par exemple, dans le camp des Républicains contre le fascisme et le général Franco, Orwell devient témoin de l'approche oppressive de l'URSS communiste envers les Républicains qu'elle appuie pourtant. C'est le sort réservé à ses alliés, imagine à ses ennemis. Et c'est pour dénoncer cette autre forme de totalitarisme que George Orwell se lance dans le récit de fiction. Alors, tu vois, c'est comme une fonction utilitaire, le roman, pour lui. Il essaie de sensibiliser, mais sans se faire trop frontal, parce que le contexte des années 40 en Europe de l'Ouest se révèle plutôt favorable à l'ancien allié soviétique qui était le grand vainqueur de l'Allemagne hitlérienne. Et l'Allemagne hitlérienne, évidemment, représente l'autre type de totalitarisme.
Donc, on peut facilement comprendre que les concitoyens d'Orwell sont traumatisés par la Deuxième Guerre mondiale, par le fascisme allemand et italien.
Oui, bien sûr. Et dans le contexte de l'après-guerre, médire sur l'URSS communiste est vite assimilé à une position d'extrême droite, alors qu'Orwell a plutôt une forte sensibilité de gauche. Aussi déguise-t-il ses critiques, d'abord sous la forme d'une fable, La ferme des animaux, parue en 1945, et puis dans un roman d'anticipation, 1984. Mais il paraît que 1984 a été mieux reçu parce qu'en l'espace de quelques années, il y a déjà quelques petits secrets qui avaient été dévoilés sur le communisme et le régime stalinien. Et déjà, il y a des gens en Occident qui commençaient à déchanter sur tout l'idéalisme qu'il y avait autour du communisme là-bas.
Et je fais une petite parenthèse aussi pour mentionner, on en a parlé à La Vie en BD dans le passé, mais il y a une chouette biographie BD scénarisée par Pierre Christin qui a été sortie autour justement de George Orwell. Donc, si les gens veulent en BD découvrir le personnage en amont de la rencontre que tu proposes mercredi prochain, ben, ça peut être un bel ouvrage aussi à parcourir, à lire ou à relire. Et puisqu'on est dans les parenthèses, je mentionnerai aussi qu'une adaptation de La ferme des animaux est parue cette année aussi, cette fois-ci adaptation réalisée par Quentin Gréban, qui est surtout connu comme illustrateur de littérature jeunesse. Et en parallèle, donc Orwell est partout dans la BD, donc tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a 5 adaptations simultanées de 1984.
Oui, parce que c'est devenu libre de droit, donc c'est ce qui fait que tout se passe en même temps. Il y a peut-être une espèce de concurrence des éditeurs aussi, c'est un peu fou. Mais moi, ça me donne une opportunité assez unique. C'est un exercice étonnant de mettre en parallèle des versions différentes tirées d'une seule et même œuvre originale. Et en fait, je convie les gens à plonger dans diverses représentations d'un même univers, puis diverses narrations d'une même histoire. Évidemment, en BD, il y a toujours les deux dimensions. De sorte que quand on lit les différentes versions, c'est la même chose, puis en même temps, c'est complètement différent.
Et chez Michel, en fait, si on regarde un peu tes anciennes programmations, il y a plusieurs rendez-vous de la BD qui ont porté sur les transpositions d'œuvres littéraires en bande dessinée, mais il me semble que c'est la première fois que tu compares entre elles différentes versions d'une même œuvre originale.
Eh bien, il y a dans un rendez-vous intitulé « De la prose à la case », j'avais comparé diverses transpositions de Moby Dick. Mais vous l'avez fait aussi à votre club de lecture. Mais c'était bref, mon intervention là-dessus. Puis je mettais en parallèle des BD qui avaient été réalisées à différentes époques avec un écart de quelques décennies dans certains cas. Conséquemment, la variable de l'époque de publication des albums, avec ce que ça implique d'évolution dans les façons de raconter, venait en quelque sorte brouiller les cartes. Alors que cette fois, on a une occasion inédite de comparer des BD qui s'inscrivent toutes dans une même période, et pour cause, puisque les cinq sont parus en un an. Ce qui fait que si on dénote entre elles des variations, par exemple dans le rythme de la narration ou dans l'esthétique, etc., on saura que ça n'a rien à voir avec le fait que tel a été réalisé en 1965 puis tel autre en 1995, mettons, mais que c'est une question de choix éditorial ou artistique ou encore littéraire.
Donc, on va présenter un peu les forces en présence. Les cinq adaptations portent le titre 1984. On va faire l'inventaire des auteurs et des éditeurs et peut-être quelques petits commentaires de ton côté pour chaque titre aussi pour mettre la table. Alors, le premier, c'est Sybille Titeux au scénario avec Amazing Améziane au dessin. C'est aux éditions du Rocher. Jean-Christophe Derrien avec Rémi Terragossa chez Soleil.
Ben, là-dessus, tu vois, chez Soleil, oui. Puis, dans une facture qui, paradoxalement, rappelle plutôt certains collaborateurs de la revue À suivre chez Casterman en album. Et la ligne éditoriale d'À suivre était plutôt éloignée de celle de Soleil, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense entre autres au dessinateur Reeves, je ne sais pas si tu te souviens, il publie toujours de toute façon, ou encore Marc Renier avec son titre Ombre et désir, ou encore le transpersonnage de Lob et Rochette. On est un petit peu dans cette esthétique-là.
Et il y a aussi Xavier Coste chez Sarbacane, il y a Fido Nesti chez Grasset, et le dernier en date, c'est Frédéric Pontorolo chez Michel Lafon. Et il faut noter aussi, ça c'est important quand même, que dans 3 cas sur 5, c'est des éditeurs généralistes qui ont été chercher ce matériel-là pour l'adapter en BD.
Oui, effectivement. Je pense que les dirigeants des maisons d'édition généralistes se rendent compte que la BD rallie sans cesse davantage de nombres et des fils. Il y a certains éditeurs généralistes qui s'en sont rendus compte il y a longtemps, mais je pense qu'il y en a d'autres là, qui ça commence à percuter dans leur tête. Là. Alors, il y a des amatrices et des amateurs de romans qui lisent aussi beaucoup de BD, puis tout d'un coup, eux, ils voient là une opportunité de développer un marché intéressant.
Et si on parle un peu de ton approche de travail, donc on parle de romans aussi, là, étant donné que tu vas parler de transposition, j'imagine que oui, il faut lire les 5 BD, les comparer entre elles, établir des parallèles, mais on établit aussi des parallèles avec le roman original. Donc, j'imagine qu'il faut aussi là, se replonger dans le roman, dans une lecture assez active, si on peut dire.
Ben, écoute, si je l'avais lu là, il y a longtemps, je l'aurais peut-être lu, mais je dois te faire un aveu. Je l'ai lu pour la première fois cet été en fonction de ma présentation de cet automne. Et je peux te dire que comme lecture d'été, ça ne correspond pas exactement à l'idée de la petite lecture légère et souriante. Hein? J'avais pourtant acheté, il y a longtemps, un format de poche durant mon université à la fin du 19e siècle, dans une édition bien plus vieille encore, puisque datant de l'année de ma naissance, quelque part au Moyen Âge. Alors, en fait, je pense que si j'ai eu le roman dans ma bibliothèque tout ce temps-là sans le lire, c'est que d'avoir vu l'adaptation cinématographique à sa sortie en salle en 1984, justement, alors que j'avais tout juste 20 ans, ça a rendu la lecture du roman pas mal moins pressante puis attrayante. Et le film, en passant, est vraiment fidèle au roman et moi, j'en garde un excellent souvenir. Le tandem John Hurt-Richard Burton est parfait. Et c'est fou quand on y pense, parce qu'en 1948, George Orwell écrivait un roman d'anticipation. Il imaginait un futur. Alors que le film qui sort en 84, l'année où se déroule l'action, constitue déjà une uchronie, ce que sont aussi les 5 BD parus depuis 18 mois, qui est plus est.
Et uchronie, en fait, pour rappeler, c'est dire que l'auteur choisit une période historique modifie tel événement, imagine les conséquences, raconte comment ça aurait changé le cours des choses. Bref, on s'amuse un peu à réécrire l'histoire.
Voilà. Et le futur de George Orwell est depuis devenu notre passé à nous. Et ce roman d'anticipation qui, à partir de l'an 84, s'est pour ainsi dire mué en uchronie, eh bien, ce roman réécrit, se trouve à réécrire lui aussi un passé, mais un passé qu'on a connu il y a 38 ans. Donc, ils imaginent une société, une civilisation en 1984, à l'intérieur de laquelle les autorités réécrivent leur propre passé. Là, c'est une mise en abîme, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant à la lumière d'aujourd'hui. C'est comme si le roman a pris plein de dimensions supplémentaires au fil des décennies. Alors, moi, je dois dire que ce qui m'a particulièrement frappé cet été à la lecture du roman, c'est justement la dimension visionnaire de 1984. Non seulement l'écrivain élabore une société future qui est nourrie des exemples de dictatures qui lui étaient contemporains, des dictatures paranoïaques, nourries par la délation, qui traquaient l'ennemi du régime jusque dans l'esprit de ses pauvres citoyens. Mais il y a certains aspects des projections de George Orwell qui sont quasiment divinatoires puis qui trouvent aujourd'hui un écho qui ne résonnait pas à l'époque où il a écrit 1984 et qui ne résonnait pas plus il y a 38 ans quand j'ai vu le film. Notamment parce qu'entre-temps, on a connu, ne serait-ce que parce qu'on a connu l'ère Trump, pendant laquelle non seulement la réalité dépassait la fiction, mais même se confondait carrément avec elle. Et d'abord, en raison des agissements puis des déclarations surréalistes de Trump, mais aussi à cause de la notion de fait alternatif. Alors, je vous lis un extrait de 1984 qui souligne la similarité avec ce qu'on a vécu sous le règne du clone orange. Alors, ouvrez les guillemets. La société océanienne, qui est le continent dans lequel, dont fait partie dorénavant la Grande-Bretagne, repose sur la croyance que Big Brother est omnipotent et que le parti est infaillible. Mais comme, en réalité, Big Brother n'est pas omnipotent et que le parti est infaillible, une inlassable flexibilité des faits est à chaque instant nécessaire. Fermez les guillemets. C'est pour ainsi dire du révisionnisme à court terme, constant. Donc, c'est vraiment la notion des faits alternatifs. On dit n'importe quoi et ça devient la vérité. Et puis avec Trump, là, on est dans le populisme de droite, mais il y a, dans 1984, des éléments qui m'ont fait penser à l'autre extrémité du spectre sociopolitique de notre société actuelle, qui est évidemment très polarisée, à savoir la gauche bien-pensante qui promeut, par exemple, le bannissement des mots et des figures historiques qui ne correspondent pas à leurs valeurs. Alors, dans la civilisation de l'Océania, d'une part, il y a perpétuellement des individus qui sont rayés des registres, des archives, des livres d'histoire, des photos, et au besoin, ils sont même remplacés par un autre individu qui est éventuellement fictif, complètement inventé. Et par ailleurs, l'anti-héros, Winston Smith, occupe un poste de fonctionnaire, puis sa tâche principale consiste d'ailleurs à effacer des gens de la mémoire collective. Et d'autre part, les autorités, dans 1984, imposent une langue officielle appelée la novlangue, qui est constamment révisée dans le sens d'une épuration, d'un élagage. On n'ajoute pas des mots, on en enlève. À chaque nouvelle édition du dictionnaire, il y a plein de mots qui ont été retranchés, le but étant qu'ultimement, il en reste un minimum nécessaire à la communication, mais pas assez pour vraiment nourrir la réflexion.
Et si on continue le jeu un peu des concordances entre le roman et notre époque actuelle, on peut penser aussi, aujourd'hui, bien après là, la sortie du roman, il y a eu l'avènement des écrans qui sont partout dans la société, peut-être un peu de la même façon que les caméras de surveillance et de propagande sont omniprésentes dans l'Uchronie dépeinte par 1984.
Oui, dans la société, puis jusque dans l'intimité, via nos écrans. Là. Alors, le régime totalitaire de l'Océania s'inspire à la fois de l'Allemagne nazie puis de l'Empire soviétique, c'est vrai. Et puis Big Brother s'inspire à la fois d'Hitler et de Staline, c'est aussi vrai, sauf sur un aspect, et ça rejoint ce que tu dis. Ici, il n'y a pas de discours enflammé devant des foules envoûtées, pas de photos avec des petits-enfants pour montrer la dimension paternelle du dictateur éclairé, là. Non. Big Brother, dans mes notes, j'ai écrit bébé, j'allais dire Brigitte Bardot. Big Brother est une figure désincarnée, presque abstraite, donc parfaite, une figure d'autorité absolue dont la présence se limite à une image. mais une image omniprésente et intimidante. Il existe et il communique par écran interposé, ce qui préfigure de façon troublante ce qu'on vit depuis le début de la pandémie, qu'on fait tout par écran sur écran. Et nous, on savait, même avant les révélations d'Edward Snowden, que nos gouvernements, même les régimes démocratiques occidentaux, là, espionnent leurs propres citoyens via leurs ordinateurs personnels, leurs téléphones intelligents et autres. Or, écoute comment Orwell décrit ce qu'appelle, lui, les télécrans. Ouvrez les guillemets. Derrière Winston, la voix du télécran continuait à débiter des renseignements sur le 9e plan triennal. Une espèce de lavage de cerveau continuel. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois et suivant quel plan la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque? Personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde constamment. On devait vivre, on vivait, car l'habitude devient instinct, en admettant que tout son émis était entendu et que, sauf dans l'obscurité, tout mouvement était perçu. Fermez les guillemets.
C'est assez troublant, tout ça.
Oui, ben Edward Snowden nous a révélé que ce n'était pas de la science-fiction. Et sans parler de l'improbable, ça c'est hallucinant, une espèce d'improbable redécoupage de la map monde dans le monde imaginé par George Orwell. Océania est en fait un continent où la Grande-Bretagne est rattachée non pas à l'Europe, mais à l'Amérique du Nord. Eh bien, il y a quelques jours à peine, on vient d'annoncer que des pourparlers étaient en cours pour que le Royaume-Uni, suite au Brexit, se joignent à l'accord de libre-échange nord-américain. Moi, j'entends ça aux nouvelles, je capote, tu sais.
Et nécessairement, en fait, avec un sujet comme celui-là, Michel Giguère, j'ai l'impression que tu nous invites non seulement à réfléchir sur les modes de narratif que sont le roman, le cinéma et la bande dessinée, mais de réfléchir et d'explorer aussi 5 manières différentes de transposer le monde de 1984 en BD. Et en plus de tout ça, à réfléchir au monde de 2021, à notre monde. Donc, ça te fait énormément de matière, tout ça, là, vraiment.
Oui, puis là, ben, à ton micro, je n'ai pas énormément parlé de bande dessinée comme telle, parce que j'aimais mieux parler d'écrire l'univers, parler du contenu. Mais là, pour ce qui est de la forme, pour ce qui est de la facture visuelle, on va en avoir plein les yeux sur écran. Donc, oui, on va être plongé aussi dans toute une imagerie. Ça va donner une diapo-conférence polyphonique avec plusieurs versions puis plusieurs visions d'une même histoire. Malheureusement, ce ne sera pas vraiment multimédia. On ne projettera pas un passage du film ou encore de l'adaptation théâtrale. On n'a pas parlé, mais ça avait été monté en coproduction par le théâtre Denise Pelletier et le Trident il y a quelques années. Mais quand même, moi, c'est avec le roman frais en mémoire et puis avec un souvenir prégnant de l'adaptation cinématographique, avec aussi une forte impression de la pièce que j'avais eu la chance de voir, que j'ai lu puis que j'ai évalué les 5 versions en bande dessinée.
Et dans le fond, tout ça, évidemment, on invite les gens à le découvrir. Donc, au prochain rendez-vous de la BD, mercredi qui s'en vient, donc le 6 octobre à 19h.
Oui, puis nous autres, je vous le dis, on commence à l'heure pile, hein? Entre autres depuis que c'est web diffusé. Là. Fait que soyez pas en retard, soyez à l'heure.
Et il faut réserver, justement.
C'est peut-être important de le dire,
oui.
Raymond. Hein?
Oui, en fait, c'est gratuit, mais il faut réserver si on veut profiter du volet présentiel. Évidemment, si on réserve pour y aller, on se présente sur place, parce que sinon, on prend la place de quelqu'un qui aurait probablement voulu y aller. Donc, c'est au 418-641-6797 au poste 3. Et sinon, c'est ouvert à tous et à toutes là, par le biais de la web diffusion. Michel Giguère, à bientôt.
Hey, au mois prochain. Ciao.
Toujours dans le cadre de la vie en BD, on se plonge maintenant vers une application qui a été rendue disponible tout récemment, en fait, donc depuis à peu près une semaine. Elle est disponible à Québec, entre autres dans des bibliothèques, dans des lieux qui également s'ajouteront au fil des prochains mois. Il s'agit d'une application de réalité virtuelle qui s'appelle Pop-up Limoilou, qui est un métissage entre la bande dessinée, l'histoire, la musique et les technologies. C'est un projet que j'ai eu le plaisir de piloter par le biais de Parenthèse 9 et j'avais envie de le partager avec vous toutes et tous, d'en jaser un peu et de vous amener peut-être un peu à voir, à comprendre, à saisir certains éléments de la démarche et de l'approche de travail qu'on a mis de l'avant autour de l'année, au fil de laquelle s'est développé ce projet métissé. Alors, ben, pour en jaser avec moi, j'ai trois de mes collaborateurs. Donc, Julien Dallaire-Charret, auteur BD illustrateur. Salut.
Salut, ça va bien?
Très bien. Benoît Duna, qui est concepteur technologique, qui est associé au centre CIMI, donc Centre de transfert technologique basé à Québec.
Bonjour Benoît.
Et Benoît Bordage, qui est historien et musicien et qui a été responsable du volet sonore et musical de l'application. Benoît, bonjour.
Salut.
Alors, ben, d'entrée de jeu, dans le fond, on cogne à votre porte et on dit, dans le fond, on veut développer une application de bande dessinée et de réalité virtuelle. L'idée est venue, évidemment, de cette volonté-là de développer un univers un peu immersif, si on peut dire, autour de la bande dessinée, autour de l'histoire. Mais comment on reçoit peut-être cette invitation-là? Parce que, autant pour Benoît, ça rentre dans ton travail à toi, c'est ton créneau. Autant pour Julien et pour Benoît Bordage, ben, on est un peu hors de votre zone de confort, d'une certaine façon.
Ben oui, hors de la zone. En fait, quand on a présenté le projet, je pense un peu tout le monde, là, j'étais comme, OK, les casques. Mais moi, d'ailleurs, il y avait la réalité virtuelle, réalité augmentée. Il fallait que j'aille hurler. Je ne me rappelais jamais lequel est lequel. Mais après ça, j'ai fait, OK, c'est bon. Là. Moi, je l'ai vu un peu comme un scénette de jeux vidéo, quelque chose comme ça, un petit tableau interactif ish. Mais oui, là, c'est sûr que ça sort de la BD. Là, on tombe quand même dans un environnement 3D, puis il y a toute une question de on en parlera plus tard, là, mais le visiteur, ou en tout cas la personne qui fait l'expérience, est guidée, mais est quand même libre. Là, donc, il y avait toutes ces contraintes-là de comment on présente les choses, de faire comme soit un parcours ou quelque chose qui est intéressant, mais qu'en même temps, on laisse la liberté aux gens de l'approcher un peu comme ils veulent. Fait que je dirais que c'était une drôle de bibitte.
Je pense que il y a aussi cette idée dans ça de ne pas travestir l'idée de départ qui était aussi de faire une BD, parce que quand on parle de réalité virtuelle, ben on pense très rapidement à jeux vidéo, par exemple. Là, donc comment on est capable de transporter ça dans un univers virtuel, mais en gardant l'esprit BD, là. Ouais. Ça, on a eu quelques discussions là-dessus au début, là, justement, pour arriver avec le pop-up.
Ben, c'est ça. Je pense que vraiment la réussite du projet tient dans le fait que, du départ, on avait une idée de ce qu'on voulait faire, mais on n'avait pas vraiment la forme. Fait que le point fort du projet a été, dès le départ, de réunir autour de la table tous les intervenants, c'est-à-dire aussi bien l'historien que les BDistes, que les technologues, pour voir quelles étaient les options, quelles étaient les possibilités, puis surtout, quelles étaient les contraintes. Puis j'ai vraiment l'impression dans ce projet-là qu'on a fait, dans le fond, des contraintes, une force. C'est-à-dire qu'on a vraiment orienté le projet, puis à un moment, on a vraiment eu ce déclic-là de se dire, on va y aller vers de la 3D faite à partir d'éléments 2D, en partant du constat que souvent, quand on essaye de faire des environnements 3D, c'est quelque chose qui est très compliqué, puis la concurrence est rude, c'est-à-dire quand on a des références qui viennent du jeu vidéo, de studios qui mettent des millions de dollars pour faire des environnements qui sont visuellement vraiment très beaux. Ce qui fait que quand on essaye de faire un projet comme ça, plus culturel, avec des moyens, on va dire, plus restreints, ben, il faut trouver des twists. Puis je dirais que la force principale de ce projet-là, c'est vraiment d'avoir trouvé cette twist-là, puis on en parlera niveau technologie, qu'est-ce que ça implique, mais d'avoir choisi du départ cette direction-là, c'est ce qui a fait la réussite du projet, d'après moi.
Et si on donne, effectivement, la base au départ, en fait, c'était un livre d'histoire aux éditions de Septentrion, une maison d'édition qui a participé à l'élaboration et au développement du projet. Donc, ça s'appelle « L'église Saint-Charles de Limoilou, témoin d'histoire, chantier d'avenir ». C'est Gilles Galichan qui était avec nous sur le projet. Et on savait, donc, on voulait raconter l'histoire de Limoilou. On savait qu'on voulait raconter l'histoire de Limoilou en partant de 1535 avec Jacques Cartier et l'hiver qu'il a passé ici. On savait qu'on voulait amener l'histoire jusqu'à l'époque actuelle, jusqu'à la renaissance que connu ce quartier de Québec-là. Mais comme tu disais, Benoît, on ne savait pas encore la forme. Et j'ai l'impression que c'est à un moment donné où on s'est posé la question, quelle est la physicalité un peu du livre et comment on peut revenir à l'idée de physicalité du livre qu'on a eu le flash, si vous me permettez l'anglicisme, du livre pop-up, dans le fond, de ce livre qu'on ouvre, dans lequel il y a comme des constructions de papier. Et l'idée, au bout du compte, de placer le joueur à l'intérieur de ce livre-là et que ça oriente aussi complètement tout le développement et l'approche visuelle. Parce qu'au bout du compte, pour les dessinateurs, exemple, Julien, on ne te demandait pas de faire des personnages tridimensionnels, mais on te demandait de penser un environnement de papier 2D, mais de le penser quand même dans une logique 3D.
Oui, je pense que c'est là que tout le référent livre pop-up là, prenait son sens. Puis je pense que tu le dis bien, là, ça nous aidait tous. On savait tous un peu de quoi on parlait, puis c'était un peu s'imaginer, si moi je me prends et je me mets à l'échelle de je marche sur les pages d'un livre, c'est un peu ça là, le feeling qu'on a dans l'application. Là, moi et Richard, c'est ça, on a développé, c'était tout en 2D, c'était des dessins, mais c'était un peu comme penser à des panneaux, un peu comme je dirais un expo là, ou des figures, puis comment les découper et tout. Puis c'est ça, ça fait vraiment visuel en 3D. Je me souviens des esquisses que je faisais souvent, j'essayais de me faire un plan vue de haut, espèce de vue 360, on va voir tel panneau, ou si quelque chose est plus grand, on va le mettre derrière l'autre, évidemment, des petites choses comme ça. C'était vraiment le fun, c'était comme faire une petite scène un peu, là.
Oui, parce qu'au départ, on avait travaillé des scénarios, dans le fond, avec Gilles Galichon, on est arrivé avec une espèce de description de voici un peu le contexte historique, voici une idée, une proposition de concept à développer, avec une liste d'éléments qui devraient se retrouver, des éléments obligatoires, des éléments accessoires. Après ça, on vous lançait ça, puis c'était un peu à toi et Richard Valrand, dans le fond, de penser à l'organisation de l'espace, à une première scénarisation. Et j'imagine aussi de le faire avec pas mal d'allers-retours, entre autres avec l'équipe de conception technologique, avec Benoît Dunant, pour s'assurer que ce qu'on imaginait d'un point de vue scénique était faisable d'un point de vue technologique.
Oui, vraiment. Avec Benoît, on s'en est parlé souvent, mais il y a des trucs, des fois, on fait comme des fausses perspectives, où on essaie des affaires, puis il fallait comme... Moi, j'imaginais de même, là, j'ai envoyé une espèce de maquette, le sketch. Des fois, je faisais des petites vidéos, je jouais dans des petits logiciels juste pour... moi, je pense que ça marcherait de même, mais là, tu me confirmeras oui ou non. Là, puis c'est souvent Benoît qui me disait oui, c'est une bonne idée, ou non, là, ça va looker vraiment bizarre, là. Mais oui, il y a eu un petit peu d'essai-erreur comme ça. Là,
ça a été un gros enjeu au début du projet, hein, parce que c'était même si Julien et Richard, je pense que les deux ont travaillé un petit peu dans le jeu vidéo, fait qu'ils ont quand même, c'était une des forces qui faisait que ça fonctionnait bien, c'est qu'il y avait comme un langage commun, puis le fait d'utiliser déjà le dessin numérique, c'était un gros plus. Mais il y avait quand même une step qui n'était pas facile à percevoir, c'était de se dire, OK, ce n'est pas des panoramas. C'est-à-dire que quand un dessinateur va faire un paysage, souvent, en fond, il va tracer quelques arbres, puis ça va être quelques traits. Il va pouvoir, mettons, les choses qui sont en arrière-plan, mettre moins de détails, les choses qui sont en avant, mettre plus de détails. Ou si, par exemple, on a un grand personnage principal qui est devant, on ne va pas avoir à dessiner ce qui est derrière lui. Là, dans le cas d'une scène 360 ou comme si on imagine un livre pop-up, il faut que tous les éléments soient présents parce que quand on va se déplacer dans le tableau, il ne faut pas que ce qui était derrière le personnage initialement disparaisse puis qu'il y ait un trou derrière lui. Donc, ça crée une difficulté supplémentaire parce qu'il faut tout dessiner, entre guillemets. Par contre, là où on peut sauver vraiment beaucoup de temps, c'est qu'on peut faire un arbre puis le dupliquer pour créer une forêt. Fait que ça, c'est l'avantage de pouvoir dupliquer, répéter. Puis c'est quand même une astuce qu'on a utilisée beaucoup là, pour créer des foules, pour créer des environnements naturels. C'est quelque chose qui est vraiment plus rapide à faire, de faire quelques arbres puis de les dupliquer ensuite dans l'environnement 3D.
Je pense qu'il y avait une force aussi dans cette idée de projet, dans la mesure où est-ce que, là, on parle de stations, mais les stations étaient très différentes les unes des autres aussi. On avait des stations qui étaient des événements précis, puis on avait des stations qui étaient plus des époques. On a une station qui est carrément la distribution des anciens villages. Si on avait choisi une autre manière de le faire que de l'illustrer comme ça en BD, parce que bon, l'illustration des villages, c'est comme si tu étais un géant dans les villages. Tu sais, ça nous donne une position sans trahir le matériel de base, la structure de base, là. Donc, on est encore dans un pop-up, mais on peut plus facilement se promener que si ça avait été quelque chose de numériquement animé, par exemple, là, je crois.
Oui, puis si on joue avec les points de vue, là, justement, c'est vrai, elles sont assez différentes là, quand même, les citations pour ça. Puis il y avait une petite twist là, souvent, là, où justement, oui, c'était intéressant pour ça. Mais je pense que ça le rend bien aussi, là, mais c'était des approches différentes. Puis souvent, on faisait de quoi dans un, ben de l'autre, là, c'était bon, ben là, il faut le repenser autrement un peu.
Mais alors ça, c'est un peu bédéistique aussi. Là. Oui. Je pense, Julien, là, mettons le tableau, où est-ce que tu as la partie de Limoilou dans les années 70, 60-70, puis 80-90, ben, puis la revitalisation. Là. En fait, tu fais juste te tourner, puis
oui, ça,
tu changes d'univers. Là, puis on le voit dans la BD, c'est un procédé qu'on peut utiliser quand même.
En fait, d'une façon générale, je dirais que si on me montrait le rendu final au début du projet, je crois que je signerais tout de suite là, pour la qualité qui... En tout cas, moi personnellement, je suis vraiment très, très satisfait du rendu final. Là. Je trouve que en termes de qualité puis de rendu, là, ça dépasse vraiment mes espérances de début de projet, on va dire.
Oui, puis c'est en fait, Benoît Bordage met le doigt sur un élément que je trouve assez intéressant, c'est cette idée justement que le processus de faire passer l'histoire par la BD pour la mettre en image dans cet univers-là nous ouvre la porte à plusieurs processus. Puis dans le fond, autant on peut aller avec des mises en place plus classiques, dans le fond, qui à la limite se rapproche un peu d'une illustration à laquelle on donne une dimensionnalité, une profondeur, que ce soit le tableau de Jacques Cartier, par exemple, où il y a une file de marins qui sont devant un arbre avec le portrait de Notre-Dame qui est là et qui l'implore. C'est un écho, en fait, du vœu à Notre-Dame d'Antoine Maslotte. Donc, on a reproduit un peu cette scène-là. C'est une scène, une illustration en profondeur, un peu comme Julien te fait avec le feu d'Edléville en 1892, il y a une partie du secteur sud de Limoilou qui en est venue, qui a brûlé. Et autant, je pense que l'exemple que Benoît donnait sur la White Birch, où on se retrouve, dans le fond, avec d'un côté donc une rangée de gens qui se dirigent pour aller travailler dans cette entreprise-là qui a apporté beaucoup d'emplois pour le secteur dans les années 50-60. Autant de l'autre côté, on a le déclin du quartier avec justement cette file de gens-là qui n'est plus là, des commerces qui sont un peu en état d'élabrement. On assiste à la montée des banlieues ou l'exemple qui était donné tout à l'heure sur la rivière Saint-Charles où on voit vraiment sa progression de dépotoir à ciel ouvert jusqu'à la revitalisation de 2008. Et l'idée, j'imagine, c'était de trouver la bonne approche pour le présenter puis de trouver la bonne manière aussi de le rendre. Parce que ce n'était pas nécessairement facile non plus dans l'espace. Et si on prend par exemple la rivière Saint-Charles, on a trois périodes distinctes qu'on doit illustrer. Donc, comment bien faire comprendre qu'on passe d'une période à l'autre et que chaque élément qu'on met en place appartient à telle ou telle époque, dans le fond. Et ça, j'imagine que c'est un défi un peu c'est presque scénique, à la limite, parce qu'il y a des éléments au sol, il y a des indices qu'on doit retrouver à travers tout ça. Donc, comment on a travaillé peut-être un peu ce tableau-là?
Ce tableau-là pour la rivière, en plus, lui, il y a une petite particularité. Là, il y a comme la rivière est littéralement là versus les autres où on a un fond plus, un sol plus monochrome là, ou uniforme. Puis c'est ça, c'était un peu de montrer, comme tu dis, le parcours, séparer les zones, avoir des éléments super distincts. Puis ça servait justement dans la liste, dans le scénario qu'on avait. C'est ça qui est intéressant. On s'était déjà un peu pensé, ça en partie, mais il restait à le mettre en place puis voir si ça collait. Puis on a joué beaucoup. Moi, je me souviens, évidemment, il y a des trucs d'époque, là, ça aide à se repérer. Mais aussi beaucoup les textures, là, comme le côté Rivière Saint-Charles qui est littéralement une dompe, là, c'est un dépotoir. Bien, là, on a toutes les maisons, puis beaucoup, beaucoup de détails. Puis tranquillement, ça s'en va vers l'air bétonné. Ça devient un peu plus propre, entre guillemets, mais c'est un peu plate aussi. Là. C'est comme, c'est pas super vivant. Comme ouais, c'est ça, c'est... Puis après ça, là, on ramène là, vers l'époque plus contemporaine où ça a été mis. Puis ça, on joue beaucoup avec les personnages, je pense, pour marquer les époques. Puis les différences, c'est juste par les habits ou un peu les postures et tout. Puis je pense que c'est là aussi que la bière sonore là, vient aider pas mal là, à mettre la. Des fois, il manque un petit quoi, là, je trouve, pour que la sauce pogne. Puis ça, c'est vraiment du côté de Benoît. Là, ça, c'est, je trouve que ça marche vraiment bien dans des situations comme ça là, où toute un peu l'ambiance, les petits bruits, les petits calls que les gens font. Là. Fait que je trouve qu'on le comprend encore mieux là, qu'on voyage dans un même tableau. Là, en fait.
Mais c'était agréable à faire aussi parce que moi, j'ai été obligé de partir, d'attendre en fait que les dessins soient faits pour faire l'habillage sonore parce que on a bien beau avoir une image, une idée de scène, une image de scène. Bon, ben, OK, c'est sûr, c'est le 16e siècle. Dans la campagne, il va y avoir des oiseaux, ça, on peut facilement le déterminer. Mais une fois qu'on rentre dans les dessins, qu'on reçoit les dessins, puis qu'on rentre carrément dans le tableau, ben là, on se rend compte qu'il y a tel personnage qui est là. En fait, c'est une part de créativité. En fait, les personnages de la BD qui n'existe pas, là, c'est pas à part Jacques Cartier et ses marins qui ont réellement existé. Les autres, c'est des créations, on imagine. Je me rappelle d'ailleurs le tableau de la White Birch, je me suis beaucoup amusé parce que là, je me promenais, puis là, je sais pas si c'est Julien ou Richard qui avait dessiné le robineux qui se promène là. Là, je lui ai fait chanter une chanson à moitié sous. Il y avait une personne à la fenêtre, une femme, puis un homme. Une femme qui était à sa fenêtre et un homme qui discutaient ensemble, ben, de quoi ils pouvaient se parler, comment ils se parlaient dans le temps. Puis là, j'ai été retrouver des vieilles expressions françaises. Être jacasse dans le dos, ça monte en graines comme des vieux pavots. Ben, ça, c'est une vieille expression que j'ai pu réutiliser grâce au personnage imaginé dans cette scène-là, même si on n'a pas de verbatim.
Non, mais en fait, même, vous avez beaucoup de liberté dans la mesure où on est arrivé en disant, mais voici la période. Après ça, tu étais là aux rencontres de départ. Après ça, on a fait vraiment un premier développement des différentes scènes. Et tu as pu visiter l'application et voir aussi, bon, d'un côté, qu'est-ce qui manquait pour donner corps à tout ça. Et de l'autre, de prendre le pouls aussi des éléments historiques que tu allais devoir creuser. Parce qu'il faut dire, en fait, aussi, tu es musicien et tu es historien. Et donc, ce qui fait que tu avais d'un côté le souci et de l'autre l'accès aussi à des sources, à des éléments historiques. Tu parlais de parlure, ben, de retrouver les bonnes parlures. Le breton, ça sonne comment? Le parler de telle époque, ça sonne comment? Les chansons d'entrée qui sont ancrées aussi dans les différentes époques. Donc, l'univers sonore et musical est aussi lui-même imprégné dans l'histoire, tout comme la balance de l'application, dans le fond.
Oui, tout à fait. C'est comme... Ben, ouais. Je sais pas, c'est comme quand on lit une bande dessinée, ben, on a les phylactères qui vont nous raconter l'histoire avec les images. Bon, c'est sûr que dans l'application, avoir des phylactères, ça aurait peut-être été bizarre un peu. Donc, en fait, l'habillage sonore vient pallier un peu à ça. Là. Puis, bon, quand t'as une image intéressante, ben, tu peux t'imaginer un peu comment ça sonne dans l'endroit. Mais j'avoue qu'il y a eu des défis quand même compliqués, dont justement trouver ce que pourrait dire un marin breton de l'époque. Là. Ça a été plutôt compliqué, effectivement.
Ça a été une étape quand même. Il y a eu un moment donné où on avait, je pense que c'est ce qu'on a appelé notre version 2.0, là. On avait quand même une bonne idée visuelle de ce à quoi allaient ressembler les 8 tableaux de l'application. Il me semble que l'église Saint-Charles, la scène centrale, n'était pas encore tout à fait définie, mais nos 8 tableaux étaient visuellement, entre guillemets, complets. Et on s'est rendu compte pour beaucoup qu'ils étaient vides. On avait construit la périphérie, on avait des personnages, mais c'est là qu'on se rend compte que c'est compliqué de remplir une scène 360 degrés avec des éléments de personnages 2D, parce qu'il en faut beaucoup. Donc, il y a eu certains tableaux où il a fallu que les dessinateurs se remettent un petit peu à l'ouvrage pour rajouter du contenu. Et puis, comme tu disais, là, ça a été vraiment une étape super importante de rajouter des voix, de rajouter des interventions des personnages, qui fait en sorte que quand on se déplace dans le tableau, ben, il y a des choses qui se passent, du bruit qui apparaît, des gens qui te parlent, fait que ça rend vraiment le tout plus vivant, puis ça permet de, mettons, d'avoir à passer un 5-6 minutes pour bien explorer un tableau, plutôt qu'un 10 secondes, on regarde autour de nous et on a fait le tour.
Oui, il faut avoir des indices, il faut avoir des trucs qui viennent bonifier un peu cette expérience-là. Puis même à un moment donné, je me rappelle, en cours de projet aussi, on avait réalisé à quel point c'était statique, l'univers qu'on avait proposé. Et on s'était fait dire, ben, il n'y a pas de mouvement. Et vraiment, ça, je pense que c'est un de mes enfants qui m'avait fait la réflexion. Puis à un moment donné, une fois qu'on y pense, ben, c'est vrai, dans le fond, il n'y a rien qui bouge. Il y a pas de... Et c'est là qu'on a commencé à se dire, ben, OK, est-ce que dans le feu d'Eddyville, il peut y avoir des flammes? Est-ce qu'on peut faire tourner la grande roue d'exposité dans le tableau 2010? Est-ce qu'on peut faire bouger la rivière dans les tableaux où elle intervient? Mais c'est des éléments aussi qui, comme ça, s'ajoutent ou ajoute des petits défis ou des gros défis dans certains cas, côté conception technologique, parce que autant sur le mouvement, autant juste sur l'idée de faire de la 2D en 3D, des personnages de papier, comment on leur donne de la profondeur, comment on les découpe, parce que tu ne peux pas faire ça manuellement non plus. Il y a tellement de matériel là-dedans qui ont été produits qu'il y a plein de choses au CIMI que vous avez dû automatiser aussi, Benoît Duvinant.
Oui, ben c'est ça. Dans le fond, t'sais, dans un premier temps, il y a quand même quelque chose qui se fait beaucoup, ce qu'on appelle des cardboards, là. Fait que, des billboards plutôt. Fait que ça va être, mettons, un plan 2D qui viendrait être dans l'espace 3D. C'est des choses qui existent déjà dans les engins de jeux vidéo. Mais souvent, ce qui me gênait un petit peu avec l'utilisation de ces éléments-là, c'est qu'il n'y a pas d'épaisseur. Fait qu'on est vraiment comme si on avait une texture un petit peu qu'on vient placer dans un plan dans l'espace, ce qui fait en sorte que si on arrive de côté par rapport à, mettons, imaginons un dessin de Jacques Cartier qu'on viendrait placer sur un billboard comme ça, quand on arrive de côté face à lui, ben, il comme disparaît parce qu'il a une épaisseur qui est nulle. Et ça, c'était vraiment du début, je pense, quand on est parti sur cette idée d'avoir un leaf pop-up, on a tout de suite réalisé que c'était important d'avoir cette épaisseur, comme si on avait découpé un petit dessin en carton, puis qu'on était venu comme vraiment le coller dans notre scène 3D. Et à ce moment-là, ben, pour nos premiers prototypes, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai créé, dans le fond, des mesh, c'est-à-dire j'ai créé des objets 3D à partir des dessins que un dessinateur avait fait pour faire les premiers tests. C'était Jacques Cartier, en l'occurrence. Puis on a donné une petite épaisseur au dessin. On l'a placé dans la scène, on a placé quelques arbres comme ça, puis on s'est rendu compte, l'effet de parallaxe marche bien. Je me rappelle on a une petite vidéo là, de cette scène-là, c'est Jacques Cartier avec 3-4 arbres, un caillou, puis la caméra qui se déplace de droite à gauche, puis on voit la parallaxe qui fonctionne bien, on vit dans un environnement 3D. Fait que c'est ça qui nous a un peu donné le go de c'est vers ça qu'on veut aller. Et à ce moment-là, ben, c'est là qu'on a réalisé que ça allait être pas mal de travail si on commençait à faire tous les dessins, qu'on les transformait en objets 3D dans Blender. Donc, on a développé un petit outil pour Unity 3D qui nous permettait justement de prendre en entrée les dessins des dessinateurs avec quelques consignes qu'on avait données, c'est-à-dire le dessin, un petit liseré blanc pour donner vraiment une consistance, puis une petite marge en fait entre le dessin et le découpage, puis ensuite de ça un fond transparent, puis le petit outil qu'on avait développé, ben, il venait suivre ce contour-là, donner une petite épaisseur pour créer un mesh, puis plaquer la texture du dessinateur sur le modèle 3D, et ensuite de ça, ben, on avait comme nos objets qu'on pouvait placer dans nos scènes à volonté, puis c'est là qu'on pouvait venir, mettons qu'un arbre. On créait un petit modèle 3D d'arbre, puis on pouvait le dupliquer, puis le déplacer partout dans la scène. Puis ça nous a aussi permis une fois qu'on a créé un arbre, par exemple, ben, on peut le scaler, le rendre un petit peu plus grand, un petit peu plus large. Puis ça permet de mettre de la diversité, puis de créer une forêt qui a moins l'air d'être répétitive que si on fait des copier-coller bêtes et méchants.
Oui, puis même chose, j'imagine, aussi à une année où on se décide à placer une source lumineuse, bien, il faut qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait des trucs qui passent à travers. Donc là, éventuellement, bien, si on fait un bateau, si on fait un arbre, bien, il y a des trous, il y a des vides. Donc, il faut aussi réussir à les découper de l'intérieur ou à choisir ce qu'on allait faire découper, dans le fond.
Ouais, ça a été un défi, là. Notre première version de notre outil ne gérait pas les trous de la façon dont on l'avait fait. Et là, on s'est rendu compte, ouais, ça peut quand même être intéressant justement pour cet effet de parallaxe, d'être capable de voir au travers les voiles d'un bateau pour voir le paysage en arrière-fond. En fait, là, on a modifié après un petit peu ça, puis à la fin, on avait quand même un outil qui est un flux de travail qui était efficace, là, puis on était capable de produire des scènes en un temps record.
Oui, il y en avait du morceau là, dans certaines scènes. C'est assez impressionnant de les voir toutes une à une. Là.
Je dirais, en fait, du morceau, autant sur le visuel, autant sur le sonore. Je veux dire, quand on commence à décomposer les trucs, c'est hallucinant la quantité de matériel qu'on a réussi à rentrer dans, somme toute, uniquement dans une application qui est relativement légère là, quand même.
Oui, puis plus le temps avançait, plus on comprenait les mécaniques, puis plus on jouait avec. C'est-à-dire que je me rappelle à la fin, là, on s'est retrouvé à fabriquer des meubles IKEA quasiment.
Oui.
Julien me donnait... On voulait créer plus de volume dans nos scènes. Fait que là, ben, Julien créait des planches de bois puis des sols de terre. Puis c'est comme ça qu'on est venu à construire les bancs dans le nouveau Limoilou. Là. Fait que vraiment, c'était un travail d'assemblage en prenant les différentes planches puis en les plaçant en 3D pour créer vraiment des éléments 3D à partir des dessins 2D de Julien.
Et peut-être en conclusion, parce que l'objectif aussi de la discussion, c'est, je pense, de donner le goût aux gens d'aller l'essayer. Évidemment, je mentionnais l'entrée de jeu, donc il y a des dates, il y a des mises en disponibilité pour aller la découvrir si vous êtes à Québec. Il y en aura d'autres également qui vont s'ajouter au fil de l'année à venir. Donc, ce que je recommande généralement, c'est d'aller sur monlimoilou.com/pop-up pour justement voir à quel endroit vous pouvez la trouver à un moment X ou Y. Et présentement, ben, il y a des disponibilités du côté de Limoilou. Évidemment, c'est là qu'on voulait amorcer la mise en visibilité de l'application, mais on espère pouvoir la faire déborder de Québec et déborder du Québec, évidemment, au fil de la prochaine année. Benoît Bordage, Benoît Duna, Julien Dallaire-Charest, peut-être en terminant, votre espace coup de cœur dans cette application-là, le tableau peut-être ou l'élément qui vous happe peut-être un peu le plus, ça serait lequel là, des 8-9 et des petits micro-détails qu'on a saupoudrés à gauche, à droite? Là. C'est quoi votre...
Je vais y aller en premier pour pas qu'on me le vole, mais moi, c'est définitivement le nouveau Limoilou. Là. C'est celui, je trouve, le plus joyeux puis le plus festif. Là. Puis en plus de ça, ça parle du TurboFest. Il y a un jongleur que je connais bien devant l'école de
cirque. Il y a un beau jongleur, en effet.
Qui fait la promotion du TurboFest. Fait que c'est mon tableau coup de cœur.
Moi, j'irais dans l'inverse. J'aime, ben, c'est un que j'ai fait, là, je prends parti pris. Mais le feu, là, justement, là, avec les marins et les flammes et l'ambiance, là, je trouve c'est pas joyeux, justement. Il y a comme un drame, là, puis on voit un peu la solidarité là, des gens qui ont aidé les gens de Limoilou pendant l'incendie. Ouais, j'ai beaucoup aimé faire ça, puis je trouve que ça le rend bien. Là, justement, c'est un des rares qui a comme l'animation de flammes, puis on voit les bateaux, puis tout ça. Fait que, ouais, j'ai bien aimé, je l'aime bien, celui-là.
Moi, je vais en prendre un autre. Non. Il y en a un qui est... Encore là, on parlait de format, là, celui qui présente le Limoilou, le nouveau Limoilou, là, c'est de la publicité. Là, on a le tramway, puis on a des grands panneaux, puis quand tu te promènes...
La Québec-Land en 1906-1910.
La Québec-Land, le panneau de la Québec-Land est très amusant parce que, justement, là, je me suis beaucoup amusé aussi à refaire des vieilles voix d'annonce là, puis avec un peu de machisme, un peu de, tu sais, un peu comme ce qu'on pouvait retrouver là, donc en se promenant là-dedans, puis l'idée du tramway aussi, ça m'a fait beaucoup rire de ramener ça dans la ville de Québec. C'est un très beau tableau d'ailleurs. Il y a un petit grain différent là, il est un peu bref, allez voir ça, ça vaut la peine.
Il est un petit peu plus petit en espace. Ouais. Là, c'est une ambiance assez particulière, effectivement. Ouais. Puis avec ton piano des années 20, on a vraiment l'impression d'être dans une publicité là, ouais, avec ce contexte-là. Puis de mon côté, si j'ajoute mon grain de sel, moi, j'aime beaucoup le tableau, justement, qu'on a beaucoup cherché, là, celui justement sur les villages, la division des villages. Donc, on voulait illustrer qu'après la première seigneurie, il y avait eu des petits hameaux qui s'étaient développés dans le quartier. fallait essayer d'illustrer ça. Et à un moment donné, je suis arrivé avec l'idée, ben, on pourrait faire une carte ou quelque chose au sol. C'est en tentant finalement que vous avez réussi à trouver comment rendre ça et comment l'amener ailleurs un peu aussi. et juste le jeu d'échelle où on sent un peu, dans le fond, Gulliver chez les Lilliputiens, puis dans lequel, finalement, avec l'ajout des mouvements, des chariots qui se promènent et le reste Québec qui est à l'horizon, ça fait un environnement dans lequel on est complètement décontenancé, on est complètement ailleurs et ça devient un jeu de le visiter, cet espace-là, juste avec ce jeu d'échelle-là, dans le fond, qu'on découvre.
On était mal embarqué pour celui-là au début.
Et il a été difficile à trouver.
Il est passé proche de disparaître, je crois, moi.
Oui, jusqu'à temps qu'in extremis, finalement, l'illumination se fasse et que la manière de le rendre se complète.
C'est ça, c'est qu'au final, on se ramasse à se promener dans divers univers différents qui sont homogènes en termes de visuel. Donc, on change d'échelle, on change. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Moi, je dis, ça vaut la peine de l'essayer.
Alors, je vous rappelle, l'adresse pour avoir plus d'informations sur les dates, sur les mises en disponibilité, c'est monlimoilou.com/pop-up. Et Benoît Bordage, donc historien et musicien. Benoît Duna, concepteur technologique associé au CIMI, au Centre en imagerie numérique et médias interactifs. Donc, c'est cet été associé au Cégep Sainte-Foy. Et Julien Dallaire-Charret, donc illustrateur et auteur BD. Merci beaucoup à vous trois.
Je rajouterais peut-être une dernière chose, c'est que si jamais... il y a des personnes qui... Alors, l'application n'est pas disponible sur le Oculus Store parce que ce n'est pas facile de faire valider une application, mais si éventuellement, il y a des personnes qui ont des casques Oculus Quest chez eux et qui voudraient essayer l'application, ben, éventuellement, il y a moyen d'envoyer une version pour test assez facilement. Hein, donc, peut-être, je ne sais pas, sur Pop-Up Limoilou, demander plus d'informations...
Toutes les coordonnées sont sur monlimoilou.com/pop-up. Écrivez à parenthèse 9, puis on va vous mettre en contact avec l'équipe là, pour que vous puissiez l'essayer où que vous soyez. Voilà. Mais merci à vous trois encore une fois. Et l'invitation est lancée pour vous, auditeurs et auditrices. Alors, toujours dans le cadre de la vie en BD, on va prendre quelques instants pour parler BD, pour passer peut-être en revue quelques lectures que j'ai eu le plaisir de faire au fil des derniers jours et descendre les piles qui sont à côté de mes espaces de vie. Alors, notamment peut-être une première suggestion et peut-être justement un des coups de cœur, un des principaux coups de cœur dans les BD dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit des Sœurs 10 de Matthew Tobin Anderson, donc c'est dessiné, coloré par Joe Ryu. Donc, une bande dessinée qui nous arrive du côté de Rue de Sèvres. C'est arrivé donc l'an dernier, en 2020. Je suis tombé là-dessus relativement récemment, dans le fond, en essayant de voir qu'est-ce que j'avais échappé dans mes lectures. Et mon Dieu, j'étais bien content de tomber sur cet album-là. Déjà, sur le plan visuel, c'est riche, c'est intéressant dans la manière où on met en scène ce récit-là, dans le choix des couleurs, dans l'approche des illustrations, un côté très, très médiéval, en fait, d'une certaine façon. On sent une inspiration de Joe Ryu là-dessus, là, vraiment, où on était chercher des éléments iconographiques un peu, avec beaucoup, beaucoup de mouvements. Donc, vraiment, là, c'est superbe à regarder, superbe à parcourir. Si vous croisez l'album en librairie, vous allez bien saisir la nature de la bête, comme on dit, mais vraiment, là, c'est très bien rendu sur le plan visuel. Et évidemment, mais sur le plan narratif, on se retrouve avec cette cité mythique 10, donc l'univers 10 qui s'est retrouvé évidemment d'un médium à l'autre, une légende bien ancrée dans un certain imaginaire, une des légendes maritimes quand même les plus connues, je crois. Donc, il y a beaucoup de versions populaires et cette version-là s'ajoute à ce qui est déjà disponible. Et un peu comme je le disais pour le visuel, je pense dans l'approche narrative aussi, on réussit avec la cohérence qu'il y a entre les deux, avec l'approche narrative qu'on met de l'avant, avec les biais qu'on se donne aussi dans la manière de raconter cette histoire-là. Sincèrement, pour moi, c'est quelque chose qui mérite d'être lu, d'être partagé, d'être découvert. Donc, ce regard des deux auteurs sur Is. Donc, je résume brièvement l'histoire. Donc, on a donc un royaume qui est réputé pour sa sorcellerie d'une certaine façon, puisque la première dame Dis devient donc une sorcière à un moment donné. Grâce à ses pouvoirs, la dite sorcière accompagne le roi, permet donc la construction d'une ville magique extrêmement riche, repousser presque les eaux également, et épuisé par la magie, cette dame, cette sorcière va mourir quelques années plus tard en laissant deux filles, dont l'une des deux a un vif intérêt pour les miracles prodigieux, pour la magie et le reste, et qui contribue dans le fond au maintien de cette ville. Et évidemment, par la suite, tout ça en vient à débouler. Et pour ceux qui connaissent le mythe 10, on en arrive à une finale où la ville est engloutie, la ville est détruite par quelques cataclysmes magiques également. Bref, j'en dis pas plus parce que c'est plaisant de voir se dévoiler tous ces éléments-là. Évidemment, on n'a pas besoin non plus de saisir, de maîtriser l'histoire, la légende 10 pour apprécier l'album. Tout est bien expliqué, bien concentré. Les dynamiques, notamment entre les deux sœurs, donc l'une qui a un grand intérêt pour le côté politique, pour le maintien de la ville, l'autre qui, au contraire, cherche à s'en échapper le plus possible et aller se bâtir ailleurs. L'évolution de leurs relations, les impacts des choix qu'ils font ou qu'ils sont obligés de faire selon le cas. Donc, bref, il y a un beau scénario qui se bâtit à travers de ça. Et sincèrement, je le redis, c'est intéressant. C'est sûr que, dans le fond, ce n'est pas un album qui est parfait non plus. On s'entend, mais sincèrement, comme lecture, on prend un réel plaisir à découvrir cet univers-là et découvrir la lecture que font les auteurs de cet univers-là. On sent également qu'il y a eu une certaine recherche, qu'on a été se puiser à différentes sources historiques ou en fait différentes sources narratives, si on peut dire, différentes versions de ce conte-là pour en offrir leur version, leur regard aussi sur le mythe. Donc ça paraît également. Donc, bref, on ne se laisse pas impressionner. Là, c'est quand même volumineux comme ouvrage, mais sincèrement, ça se lit rapidement, agréablement. Ça coule, c'est plein de mouvements et l'histoire elle-même, 10, reste absolument fascinante. Alors, recommandation de ce côté, donc pour les sœurs 10, donc de Mathieu Tobin Anderson et Joe Rioux, c'est chez Rue de Sèvres. Autre recommandation par la bande, c'est le genre d'album dont je n'aurais pas le réflexe de parler trop longuement parce que pour moi, c'est difficile de parler d'un récit policier sans éventuellement en venir à donner trop d'informations et peut-être un peu vendre des punchs qui viennent bonifier un peu et faire profiter de l'expérience de lecture. Alors, c'est Rebecca et Lucie mènent l'enquête. C'est du côté des éditions La Pastèque. Nouvel album de Pascal Girard qui est sorti depuis un certain temps. Et Pascal Girard qui, après avoir été joué un peu avec le genre de l'enquête, d'une certaine façon, avec La Collectionneuse, revient avec une bande dessinée policière, peut-être à la limite même plus traditionnelle que ce qu'il nous avait offert avec La Collectionneuse. En fait, bien plus traditionnelle que ce qu'il nous avait offert avec La Collectionneuse. Et vraiment, on sent un auteur qui décide par plaisir, par envie, d'aller s'approprier un genre et de le faire sien. Donc, on se retrouve avec un récit où une mère en congé maternité voit un événement particulier arrivé, décide de creuser un peu sur cet événement-là, se rendant compte que les forces policières ne sont pas nécessairement au rendez-vous et donc qui va partir avec son bébé dans le porte-bébé pour creuser un peu le dossier pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et on découvre donc l'enquête au fur et à mesure que l'album se dévoile dans un style visuel qui est propre à Pascal Girard. Je pense que ceux qui apprécient son approche visuelle vont reconnaître là l'auteur. Dans différentes entrevues, il disait, mais regardez, j'ai laissé aller un peu une certaine improvisation dans la mise en place du scénario. Donc, et sincèrement, ça ne se sent pas. En fait, s'il y avait un dérapage, clairement, c'est un dérapage contrôlé parce que, justement, le scénario se dévoile. Il y a une belle logique à l'intérieur de ça, une belle cohérence à l'intérieur de ça également. Et sincèrement, simplement l'a priori, à place place d'aller chercher un épisode de Columbo, ben dire ben, OK, on a une mère en congé maternité et son bébé qui font une enquête à la hauteur de leurs moyens, eh bien, déjà, on se retrouve dans un contexte qui est particulier, qui est stimulant, qui est intéressant. Donc, comme on dit, des beaux pouces en l'air pour l'idée de départ et d'autant des beaux pouces en l'air pour la façon dont il l'a développée et la façon dont il l'a construite. Donc, belle première forêt, si on peut dire, là, selon la manière dont on définit la collectionneuse, mais donc une belle forêt dans le récit policier pour Pascal Girard. Si vous croisez l'album, feuilletez-le. Vous allez voir un peu cet univers visuel et surtout sachez que ben, l'enquête, elle, est bien menée, elle est bien développée. Et d'un point de vue scénario, d'un point de vue rendu, ça vaut la peine d'être découvert. Donc, ça s'appelle Rebecca et Lucie mènent l'enquête. C'est de Pascal Girard du côté de la Pastèque. Et puisqu'on est un peu dans un univers, un peu à saveur thriller, je pense qu'il faut que je mentionne aussi Hedge Fund, tome 7, qui est arrivé tout récemment là, du côté des éditions du Lombard, album toujours de Tristan Rouleau et Philippe Sabat au scénario et de Patrick Hennaff au dessin. Et septième tome de cette série, septième et dernier tome d'ailleurs, et je pense que c'est pour ça que c'était important que j'en fasse mention. J'en avais parlé, en fait, pour ceux qui écoutent régulièrement La Vie en BD, au fil des 10 ans, il y a bien des séries qui sont passées dans nos mentions. Et Hedge Fund, en fait, pour moi, c'était un thriller économique qui était intéressant, qui était stimulant. Il y avait un côté éducatif peut-être un peu et une volonté d'ancrage de cette série-là dans des événements bien réels. Donc, ce qui nous permettait de véritablement le faire des allers-retours entre l'univers fictif de la bande dessinée, mais des événements et des crises bien réelles auxquelles le monde avait ou était confronté au moment de l'apparition ou dans la foulée de l'apparition de ces albums-là. Et en parallèle, ben, il y avait justement un ancrage dans un certain réalisme économique aussi là-dedans. Bon, évidemment, après ça, il y a des éléments qui s'ajoutent, qui se construisent, qui se développent, mais la base des assises était crédible, justement, entre autres, avec l'un des scénaristes, justement, M. Seba, qui avait documenté les enjeux boursiers qui venaient de ce milieu-là, et donc qui, pour moi, dès le premier, deuxième, troisième tome, ben, on avait là une série qui était stimulante et qui méritait d'être lue, d'autant si on avait envie de plonger dans cette sphère-là. Alors, on avait vraiment une belle maîtrise sur le plan du choix d'univers dans lequel on campait nos personnages. Et en parallèle, ben, l'aspect thriller restait présent. Donc, d'un point de vue expérience de lecture, il y avait des intrigues complexes qui se développaient. Il y avait donc quand même une belle capacité à développer, dans le fond, ce volet-là et à le soutenir. Et avec le septième tome, ben, on arrive avec un album qui est un peu en deux temps. Donc, la première moitié qui vient clore un peu tout ce qui a été installé par le tome précédent. Donc, on vient bien clore ces portes-là. Et ensuite, dans la deuxième moitié de l'album, ben, on semble s'efforcer à vraiment fermer les éléments qui restaient à fermer. Peut-être un peu rapidement, en fait, des fois, j'aurais aimé avoir un peu plus de pages, un peu plus d'éléments, un peu plus dans cet univers-là encore un peu, mais bon, d'une manière ou d'une autre, on vient bien fermer ces éléments-là et bien répondre, je pense, aux besoins de ceux qui avaient suivi cette série-là depuis le début, ben justement, de bien répondre aux interrogations qui leur restaient, aux portes qu'il restait à fermer et à l'ampleur aussi, à la complexité que la série avait pris sur le plan géopolitique. Et c'est vraiment à ça qu'on nous ramène aussi dans cet album, dans les luttes économiques entre la Chine et les États-Unis, dans la volonté d'une prise de pouvoir économique, d'une certaine façon, les manières par lesquelles on y accomplit, les conséquences que ça amène, tout ça. Et quand on met ce qui arrive dans le septième tome aux côtés de ce qui se place dans le premier, eh bien, on voit aussi à quel point la série a pris en amplitude au fil des tomes, au fil des récits, au fil de sa grande histoire également. Donc, où il y a eu vraiment une belle évolution qui est restée quand même bien logique, bien ancrée dans un certain réalisme. Donc, bref, pour ceux qui ont suivi la série depuis le premier tome, sachez que le septième, je crois, va bien conclure votre expérience de lecture. Et pour les autres, eh bien, si vous n'aviez pas encore donné la chance à Hedge Fund et que vous aviez envie de thriller économique, mais justement, je reviens là-dessus, ancré dans un certain réalisme, mais je pense que ça peut être effectivement une opportunité de lui donner cette chance, d'autant sachant qu'il y a une fin, que cette fin est bien, qu'on conclut réellement, dans le fond, la série, et qu'on la conclut bien. Alors, pour moi, des fois, ça peut être un argument quand on branle un peu dans le manche à se lancer ou non, pourquoi pas le faire dans ce contexte. Évidemment, d'un point de vue dessin, ça reste relativement classique, mais c'est du classique qui est bien fait. Il y a une belle efficacité dans les mouvements, dans certaines scènes d'action, dans certaines scènes plus intimes aussi, si on se limite un peu au tome 7, mais de façon générale, donc ça reste un réalisme classique, mais bien maîtrisé, alors qu'il vient bien appuyer la série et le côté narratif et économique de cet univers. Alors, je répète donc, Hedge Fund, le tome 7, c'est pour tout l'art du monde, c'est chez Le Lombard, c'est de Tristan Rouleau, Philippe Sabat et Patrick Hennaff. Alors, sinon, peut-être un dernier clin d'œil avant de se laisser sur les commentaires critiques. Alors, Idéfix voit une série arriver de son côté, donc Idéfix et les Irréductibles, premier tome, pas de quartier pour le latin. Alors, l'univers d'Astérix qui prend un peu peut-être d'ampleur avec cette série-là en s'ajoutant un premier spin-off où on se retrouve donc avec vraiment une série qui est consacrée à Astérix. Alors, c'est scénarisé par Yves Coulon, Mathieu Choquet, Jérôme Herbin et c'est dessiné par Jean Bastide et Philippe Fenech. D'un point de vue visuel, peut-être, pour commencer, on se retrouve clairement dans l'univers d'Astérix, donc un peu comme la reprise qui a été faite de la série principale que pour cette série, je pense que l'hommage rendu à Albert Uderzo est là, est bien présent. Dans le fond, on sent l'univers d'Astérix, on reconnaît le trait, on reconnaît les ambiances, on reconnaît les approches visuelles. Donc, on est clairement en terrain connu. Et un terrain connu qui, d'ailleurs, d'un point de vue scénaristique, amène quelques apparitions d'un bras raccourci, d'une bonne mine, de l'architecte du domaine des dieux et donc de quelques personnages comme ça qu'on a déjà vus dans les albums. Il y a Goudurix aussi qui arrive à un moment donné, donc qui viennent faire des petites apparitions et qui viennent un peu, entre guillemets, contribuer à bien ancrer la série dans l'univers d'Astérix au-delà de son approche visuelle et graphique. Donc ça, c'est le bon côté peut-être d'entrée de jeu. De l'autre côté, dans le fond, c'est sûr que de ce type de série-là, on peut se demander pourquoi, qu'est-ce qui a amené à choisir justement d'offrir cet univers-là dans le contexte d'une série de bandes dessinées. Donc, c'est clairement destiné à un jeune public. C'est des récits qui sont beaucoup moins complexes en autant qu'on peut parler de récits d'une grande complexité là, dans Astérix. Mais donc, on a vraiment un biais pour un jeune public. Donc, probablement que les jeunes lecteurs vont pouvoir faire connaissance avec un autre pan de l'univers d'Astérix dans le contexte d'histoires relativement courtes. Donc, on se retrouve avec, si je ne m'abuse, trois histoires courtes. Dans ces histoires courtes-là, c'est vraiment les animaux qui sont à l'avant-scène. Donc, on a Idéfix et d'autres chiens dans le contexte d'un repère donc d'irréductible, dirigé par un oiseau, avec un chat également qui est dans les parages. Et donc, ils vont vivre trois petites aventures pour placer un peu cet univers-là. Dans le premier, par exemple, ça va être une balle qui a appartenu au chien d'un ancien chef gaulois vénérable. Et donc, la balle a une valeur toute particulière. Et évidemment, on se la fait voler, cette balle-là, et il faut aller la rechercher. Dans une autre histoire, on va tenter de purifier un peu les eaux de Lutèce, mais finalement, on va se retrouver à empoisonner une partie de la population. Donc, il va falloir aller chercher un druide pour qu'il vienne offrir un remède. Et évidemment, il y aura un jeu entre les Romains et les Gaulois quant à l'accessibilité à ce druide-là. Donc, c'est le genre d'histoire qu'on retrouve à l'intérieur de cette série. Donc, Idéfix, les histoires qui sont relativement simples, qui sont rondement menées avec pas de potions magiques et le reste. Donc, on reste un peu dans les capacités des animaux. Des histoires qui sont, somme toute, correctes, mais qui n'ont pas non plus une grande ambition. Donc, elles sont là pour être là, autant que l'album, il est là pour être là également. Donc, il n'y a pas, disons, si on a envie de renouer avec Astérix, c'est certain que les reprises de la série principale bien, nous amènent un peu de nouveau matériel. Personnellement, je ne ressentirais pas nécessairement le besoin d'aller vers Idéfix comme tel. Mais d'un autre côté, j'imagine que pour quelqu'un qui a envie justement de poursuivre et d'explorer un peu plus largement, bien, on ajoute un petit appendice à l'univers qui n'est pas déplaisant. Là, c'est d'un point de vue visuel, c'est là, ça se tient. D'un point de vue narratif, c'est correct. Mais évidemment, ce n'est pas un passage obligé. Ça m'apparaît clair. J'aurais peut-être préféré avoir un peu plus d'ambition, un peu plus d'approche album plutôt que les trois courtes histoires. Il y a peut-être un potentiel avec les personnages animaliers, mais pour l'instant, dans le fond, recevons cet album-là comme un galon d'essai. Et personnellement, bien, je vais attendre au deuxième tome pour compléter un peu ma tête et pour voir si effectivement on va amener ça à quelque part ou si ça va rester, dans le fond, simplement un petit appendice pas déplaisant qu'on ajoute à l'univers d'Astérix. Alors, je rappelle, donc ça, c'est Idéfix et les Irréductibles. Donc, premier tome, pas de quartier pour le latin. Donc, c'est de Yves Coulon, Mathieu Choquet, Jérôme Herbin et Jean Bastide et Philippe Fenech. Et c'est aux éditions Albert René. Et voilà, c'est ce qui termine cette édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir de vous retrouver et on se dit à la semaine prochaine.